21. Nous accueillons maintenant Anka au 39-21. Bonsoir Anka.
Bonsoir.
Bonsoir. Comment allez-vous Anka?
Ça va.
Bon, alors dites-moi ce qui vous amène.
Écoutez, à vrai dire, c'est une de vos journalistes qui m'amène, qui a vu un de mes tweets au sujet de du hashtag à l'époque MeToo, je suis victime, etc. et qui m'a demandé si j'acceptais de témoigner dans votre émission.
D'accord. Eh bien, je vous écoute.
comme vous en doutez, par rapport au hashtag que j'ai évoqué, j'ai été victime d'abus sexuels pendant mon enfance.
Oui.
Par mon beau-père. Je suis donc passée par toutes les épreuves que ça comporte, et notamment le procès aux assises avec la condamnation.
D'accord. Alors, avant toute chose, rappelez à celles et ceux le hashtag MeToo, en fait, d'où il était parti exactement, parce que c'est assez lointain maintenant, et avec tous les événements que nous avons traversés, je pense que certains auditeurs ne recadrent pas tout ça, ne remettent pas ça. Hashtag MeToo, c'était en rapport avec les violences faites aux femmes.
Alors, MeToo, c'est particulier. Enfin, c'est le hashtag qui est né pendant l'affaire Weinstein.
D'accord.
C'est plutôt, en fait, les femmes qui travaillent dans le cinéma, le journalisme, ou en tout cas tous les métiers un peu publics,
oui,
qui l'ont utilisé. Et s'en est suivi plusieurs autres, notamment Balance ton porc, puis Je suis victime. Et là, plus récemment, nous toutes, J'ai pas dit oui.
D'accord. Donc, cette affaire, elle débute dans quelles circonstances avec ce beau-père? Vous avez quel âge?
J'ai 12 ans.
D'accord. Il est chez vous depuis longtemps, en fait. Comment arrive-t-il il se met avec votre mère, mais est-ce que tout de suite, vous sentez le danger avec cet homme?
Alors, moi, il est arrivé avant même ma naissance, en fait. Ma maman s'est mise en couple avec lui pendant qu'elle était enceinte de moi.
D'accord.
Donc il m'a reconnue à la naissance également, c'est mon père.
Mm-hmm.
Et donc j'ai toujours vécu avec lui, et non, j'ai pas senti j'étais peut-être trop petite pour réaliser que certains de ses comportements n'étaient pas normaux, si je puis dire. Mais j'ai, avant que ça m'arrive à moi, j'ai commencé à avoir déjà des doutes, parce que ma sœur aînée également était concernée, et elle depuis bien plus longtemps, depuis quasiment le moment où il est arrivé dans sa vie.
D'accord.
Donc j'avais certains doutes, mais j'étais quand même encore une enfant, donc c'était difficile de vraiment cerner, en fait, quel était le problème, jusqu'à que ça arrive.
Est-ce que votre grande sœur, elle a quel âge, quelle différence entre vous et elle?
Nous avons 6 ans de différence,
oui.
Mais elle, ça a commencé dès ses 7 ans. Donc,
d'accord.
Donc vraiment dès qu'il, enfin, un an après qu'il se soit mis avec ma mère.
Et en fait, votre grande sœur n'a pas pensé à un moment à vous protéger, à en parler à votre mère, tout simplement?
Alors, ma mère était au courant. Ma sœur a essayé à plusieurs reprises de parler, que ce soit à ma maman, à des gens de la famille. Elle a notamment également essayé de porter plainte, sachant que mon beau-père était le fils de la secrétaire de mairie de notre village. Les gendarmes ont jugé plus utile de les prévenir que ma sœur essaie de porter plainte que de prendre sa plainte. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, la gendarmerie ne prend pas en considération ce que vous vivez. Je pense qu'elle a lâché l'affaire.
Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que votre sœur est allée voir les gendarmes et que les gendarmes ont préféré prévenir le premier secrétaire de mairie qui était votre beau-père, quoi.
Sa mère à lui, en fait.
Donc, sa mère à lui.
Ma grand-mère, si vous voulez.
Mmh. Oui, alors donc, je me doute que votre sœur obligatoirement ne se sentait pas du tout protégé par qui que ce soit.
Non, effectivement. Et je pense que d'une certaine manière, si elle a gardé le silence, c'était aussi pour nous protéger, nous, parce que inconsciemment, on sait quand même les conséquences que peuvent avoir le fait de sortir quelque chose de si grave, surtout quand c'est dans le biais de dans le cercle familial. Donc ma sœur est partie de la maison en gardant son secret, mais en espérant que ça ne nous arrive pas à nous aussi. Et malheureusement, au moment où elle est partie, il fallait une autre victime et ça m'est tombé dessus.
D'accord. Vous dites nous, en fait, parce qu'il y avait encore une autre sœur avec vous?
Effectivement, ma maman a eu une fille avec
Oui.
lui qui a été épargnée, enfin, si je puis dire, parce que c'est pas forcément évident de grandir non plus dans ce milieu-là, mais en tout cas, il lui a pas fait subir d'abus, ce qui est déjà pas mal.
Votre grande sœur, en fait, avant que nous parlions de votre mère, votre grande sœur, une fois partie, elle ne vous parle pas de tout ça, elle garde le secret, comme vous dites, elle ne vous met pas en garde sur tout ça?
Tout à fait. C'est une chose que on savait toutes les trois qui se passait, mais qu'on
Oui.
n'évoquait absolument jamais. On n'en a jamais parlé entre nous, jamais.
Comment est-ce que vous expliquez ça aujourd'hui?
En fait, quand vous grandissez un peu, vous savez que c'est pas bien. Et le fait d'en parler, de l'évoquer, ça rend les choses un peu plus réelles. Et en fait, la toute première fois que ça m'est arrivé à mes 12 ans, j'ai eu le réflexe d'appeler ma sœur aînée, qui, elle, m'a dit, il faut absolument que tu le dises à quelqu'un, mais ça sert à rien de le dire à maman parce qu'elle fera rien. Et en fait, je me suis confiée à des gens, parce que ça s'est passé quand on était en vacances, je me suis confiée à la famille d'une amie de vacances qui ont prévenu ma mère, qui leur a promis d'aller porter plainte, ce qu'elle n'a jamais fait. Et du coup, je pense que là, on s'est complètement muré dans le silence et on n'a plus jamais voulu évoquer ça parce que de toute manière, personne ne nous écoutait, personne ne nous croyait. Et entre nous, on n'arrivait pas à en parler parce que ça nous renvoyait directement à la souffrance de l'une et l'autre. Donc, c'était un peu.
Ce qui est assez incroyable, c'est de vous entendre évoquer les parents d'une amie à vous qui sont au courant, mais qui donc préfèrent en parler à votre mère plutôt que de se tourner vers, je ne sais pas moi, vers la police, enfin faire un vrai signalement de cette histoire.
Malheureusement, c'est un cas enfin, que j'ai dû affronter plusieurs fois dans ma vie parce que moi aussi, j'ai essayé plusieurs fois de me confier. Il y a même des professeurs au collège qui avaient des doutes parce que mon comportement, notamment par rapport à la sexualité, n'était pas très en phase avec l'âge que j'avais. Mais jamais personne n'a jugé utile de faire un signalement. En fait, tout le monde savait ou se doutait, mais je pense que les gens n'ont pas envie de se mêler de ça. Ils disent que ben c'est quand même risqué, ça, enfin on peut pas balancer quelqu'un sans avoir de preuves, etc. Et au final, bah ils préfèrent se taire quitte à nous laisser dans des situations plus que complexes.
D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui, là, puisque aujourd'hui vous avez 28 ans, est-ce que vous pensez que la situation a évolué aujourd'hui, et que si cette histoire, elle arrive encore, vous pensez?
Ça arrive toujours,
Ouais.
c'est clair. Enfin, depuis que j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux, j'ai également une vidéo sur YouTube. C'est quelque chose que j'évoque beaucoup, pas pour moi parce que c'est pas forcément facile d'en parler, mais c'est pour toutes les autres qui sont murées dans le silence et qui a personne, enfin que personne ne veut écouter. Et il y a aussi beaucoup de garçons, contrairement à ce qu'on peut croire. Si je parle aujourd'hui, c'est pour ces gens-là aussi, pour qu'ils voient qu'ils sont pas seuls et qu'ils peuvent être accompagnée. Et moi, en fait, bah, du coup, il y a plein de gens qui viennent me témoigner de leur histoire et moi, je vais les aider, les accompagner, leur expliquer ce que c'est la plainte, ce que c'est le procès, comment ça se passe aux assises, s'il y a un procès, mais aussi leur faire prendre conscience que, bah, tout simplement, ils sont pas seuls, qu'ils peuvent en parler avec quelqu'un, qu'il y a des gens qui les comprennent et qu'il faut surtout pas se murer dans le silence. Parce que le problème, c'est que quand il y a une victime qui ne parle pas, et ben, il y en aura d'autres.
Bien sûr. Où est-ce qu'on peut trouver cette vidéo, dites-moi?
Alors, son titre, c'est J'ai survécu à l'inceste, elle se trouve sur YouTube.
Oui. Mais sur YouTube, on tape j'ai survécu à l'enfer et on tombe directement dessus.
À l'inceste. Le compte, c'est Anka, Anka-drop out.
D'accord. Alors revenons-en à ce beau-père, en fait. Comment il agissait? Est-ce que vous me dites que votre mère était au courant? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se cachait pas?
Non, c'est pas qu'il se cachait pas, c'est qu'elle le savait parce que ma sœur a essayé de lui en parler, donc forcément elle pouvait pas nier le fait que c'est arrivé. Et de toute manière, dans ses comportements au quotidien, moi aujourd'hui je suis maman aussi, j'ai des enfants et je comprends mieux que certains comportements chez lui étaient pas du tout sains et que ma mère aurait dû voir tout de suite. Il mangeait nu avec nous à table. Enfin, il faisait toujours des commentaires sur nos physiques, il regardait des films porno devant nous. Donc, ça, quand vous grandissez dedans, vous vous rendez pas compte à quel point c'est malsain. Mais ma mère aurait dû. Enfin, c'était évident qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Mais après, les actes en eux-mêmes, non, ils se cachaient toujours. Ils attendaient qu'il n'y ait personne à la maison ou que tout le monde dorme.
Et que vous disait-il, cet homme, en fait, pour que vous gardiez le silence? Parce que souvent, en fait, tout ça s'accompagne de menaces. Parce que l'auteur de ce type d'agression use de stratégie, fait souvent peur, en fait, à ses victimes. Enfin, en règle générale, on entend des menaces de mort ou des menaces, tu ne dis rien, autrement, ça va mettre les tiens complètement, ça va faire exploser la famille. Ça va... Qu'est-ce qu'il vous disait, lui?
Alors, le peu de fois où il l'a évoqué, c'était surtout avec ma grande sœur qui, elle, a eu plus peut-être le courage de l'affronter. Il lui disait qu'il allait se suicider si elle disait quelque chose. Ça, c'était vraiment son fer de bataille. Quoi. Si vous parlez, je vais me suicider, vous aurez ma mort sur votre conscience. Après, il nous a jamais menacé, nous, de nous faire du mal physiquement ou autre. Mm-hmm. Mais, vous êtes une gamine, on dit si tu dis quelque chose à cause de toi, je me tue.
Ouais, bien sûr.
Pas forcément vous taisez. Après, moi, il l'a évoqué une fois avec moi. Là, vous allez voir à quel point c'était quelqu'un de vicieux. C'était à une fête de famille à Pâques. Il m'a pris à part, il m'a tendu un billet de 50 € en me disant « Je sais que je t'ai fait du mal, mais c'est bon, on peut passer à autre chose maintenant. »
Ouais, ça vaut 50 € en gros.
Ouais. Mmh. Oui.
Vous dites que votre mère était au courant, en fait. Comment a-t-elle pu laisser faire ça?
Je pense que... Enfin, ma mère a un profil assez particulier. Je pense qu'il y a certaines choses d'ordre pathologique chez elle qui font que elle avait conscience, elle savait, mais pour se protéger aussi, je pense, et pour pas assumer sa responsabilité, elle a voulu complètement occulter ça. Et bon, c'est quelqu'un qui, de toute manière, manque beaucoup de maturité, fait pas toujours les bons choix, est très impulsive. Donc, vous avez rencontré quand même pas mal de gens dans la même situation.
Oui,
on voit
bien
souvent
sûr,
les mêmes profils de mère.
Vous avez raison, c'est souvent un profil de mère où il n'y a pas de maturité, en fait. On a l'impression que presque les jeunes filles sont plus matures que leur mère.
Et, c'est exactement ça.
Il y a donc une culpabilité qui se reporte sur ces jeunes filles parce que elles ont l'impression de tout porter sur leurs épaules, finalement, protéger sa mère, en fait.
Oui, d'autant plus que souvent, cette responsabilité se porte pas uniquement sur les faits qui peuvent se passer dans la famille, mais aussi sur tout le reste de l'aspect quotidien. Très souvent, c'est des mères qui sont pas très maternelles, qui sont pas très présentes, qui prennent pas leur rôle à sa pleine mesure. Nous, on a dû se débrouiller très jeune, toute seule, se faire à manger, faire nos lessives seules, s'habiller pour aller à l'école toute seule à pied, etc. Donc, c'est vrai que, dans un certain sens, on se disait qu'elle ne dit rien parce qu'elle n'était pas consciente de... Elle savait ce qui se passait, mais elle n'était pas consciente de la gravité non plus des faits parce qu'elle n'avait pas la maturité pour le voir.
Comment on se sent, en fait, lorsqu'il arrive ça? Lorsque... On a une mère qui nie complètement cette horrible réalité parce qu'il parlait de son suicide à lui. Mais vous, comment vous vous sentiez, vous quelle vision de la vie vous aviez, en fait, du haut de vos 12 ans? Mais ensuite, je suppose que ça a duré. Donc,
jusqu'à mes 19 ans.
Jusqu'à vos 19 ans. Comment on voit la vie, en fait? Ça doit être... on doit considérer la vie moche, en fait, quand il arrive ça et que personne... ne vous défend, en fait. Racontez-moi à quoi vous pensiez.
On passe par beaucoup d'états différents et même après les condamnations, et c'est un travail qui, je pense, que je vais devoir mener jusqu'à la fin de ma vie. Mais au début, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup dans le déni jusqu'à en faire une amnésie traumatique où j'ai carrément... Pendant que ça se passait encore, mon cerveau arrivait totalement à occulter ça de ma mémoire à court terme, si je puis dire.
Ouais.
C'était vraiment, ça n'existait pas. Ça se passait, mais Après, c'est comme si on avait fait effacer et que mon cerveau l'avait oublié. Et c'est plus tard, quand j'ai été adolescente, que j'ai commencé à, bah, forcément à rencontrer des garçons, etc., où là, bah, tout revient.
Oui.
Et là, on passe par des moments compliqués parce que quand vous avez très peu d'estime de vous-même, peu d'amour propre et peu de respect parce que personne n'en a eu pour vous ou pour votre corps, bah, ça devient compliqué aussi d'entretenir des relations saines. Donc, en fait, vous continuez à être dans cette position de victime tout le temps.
Ouais, ouais.
Tout le temps, parce que c'est quelque chose qui vous rassure. Parce que, enfin, moi, c'est encore une peur que j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal dans mes relations parce que j'ai toujours peur que la personne va faire quelque chose de mal. Et je préfère être avec quelqu'un où je sais qu'il fera du mal que d'attendre d'être déçue par quelqu'un que je pense qu'il n'en ferait pas.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous attirez plus des hommes plus violents, finalement, ou moins fiables?
Oui, parce que en fait, je me dis comment je sais à quoi m'en tenir et j'aurai pas de surprise. Là, maintenant, je commence à travailler là-dessus parce que, bah, forcément, quand on rentre dans ce genre de cercle vicieux, bah, on continue à en prendre dans la gueule tout au long de sa vie. Et moi, j'ai pas envie de continuer comme ça, mais. Et malheureusement, c'est quand vous n'êtes pas aidé, quand vous n'êtes pas encadré, que vous n'êtes pas soutenu, ben vous essayez de vous en sortir comme vous pouvez. Et c'est pas aussi par des mécanismes de défense.
Oui, et souvent d'autodestruction.
Oui, surtout.
À quel moment ça s'arrête, cet enfer-là? Et comment?
Je pense pas que ça s'arrête un jour.
Non, mais je parle des agissements plutôt, hein, de votre beau-père. Bien évidemment, je ne parle pas de l'enfer que ça laisse en cas, mais plus de des agressions. Comment ça s'arrête? À quel moment la justice va prendre connaissance et va empêcher cet homme de nuire? Dans quelles conditions?
Alors, dans un premier temps, à 17 ans, je suis partie de la maison, je me suis installée avec un garçon. Avec qui j'étais à l'époque, j'ai vécu. Enfin, c'était vraiment pour fuir. Hein. J'avais pas forcément pour projet de quitter la maison, etc. Mais c'était vraiment mon échappatoire pour que ça s'arrête. Malheureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui avait un profil violent et abusif, et au point que ça en était presque plus insupportable que ce que je vivais chez moi. Donc, j'ai préféré rentrer chez mes parents. Je suis restée un mois, ensuite j'ai fait mes affaires, je suis partie et je suis plus jamais revenue et j'avais 19 ans. Et là, je me suis dit c'est la dernière fois, il ne me touchera plus, c'est terminé. Je suis partie, je me suis installée toute seule et j'ai fait un petit peu mon bout de chemin.
Ouais.
Et finalement, ma mère a décidé de demander le divorce et il lui a fallu un divorce auteur exclusif parce qu'il y avait une histoire de partage par rapport aux frais de la maison, etc. Et donc, sa solution pour ça, c'était de dire ce qui s'était passé, parce qu'évidemment, avec des faits comme ça, c'était tout cuit pour son divorce.
D'accord, ouais. Bon, pas une situation encore très jolie, quoi. Bon.
Non. En tout cas, pas choisi. Maintenant, j'ai pas de regrets. Il fallait que ça sorte un jour, mais j'aurais préféré que ce soit moi qui prenne la décision.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que du coup, moi, j'ai pas eu le courage de me porter partie civile. J'ai même pas eu le courage de porter plainte. Le parquet l'a poursuivi en mon nom parce que j'étais mineure pour la plupart des faits.
Oui.
Mais je pense que si on m'avait laissé le temps de faire le chemin et d'acceptation, peut-être que j'aurais eu le courage d'affronter mon procès comme il se devait.
Oui,
là,
oui. Bon, mais ça, il ne faut pas que vous en vouliez pour ça. Vous l'analysez très bien aujourd'hui. Et heureusement, le parquet a suivi parce que vous étiez mineur. Votre sœur ne s'est pas greffée sur tout ça?
Si, elle a déposé plainte.
D'accord.
Elle a fait le procès bout en bout. Et puis, on a gagné le procès. Il a pris 6 ans ferme. Oui.
J'ai envie de dire que 6 ans. En fait.
Surtout qu'il y avait quatre victimes en tout, dont deux prescrites, mais ça justifie quand même du fait que c'est quelque chose de récurrent chez lui et que potentiellement il reste en danger.
Ce qui est dingue, c'est que quand même cet homme a violé, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et en plus dans un contexte vraiment où les deux victimes que vous étiez, vous et votre sœur, étaient sans défense, hein, finalement vous étiez... Oui, vous étiez sans défense. C'était et qu'ils ne prennent que 6 ans, c'est quelque chose qui me que je ne comprends pas. Alors peut-être il y a des avocats qui nous écoutent, en tout cas des gens qui travaillent dans la justice et qui ont peut-être assisté à des procès pour ce type de choses. Moi, il me semblait qu'un viol était puni de 15 ans, si je ne m'abuse, en tout cas que c'était la peine requise. Comment un homme qui a violé et donc 4 victimes ne peut faire que 6 ans? Parce que il a été en fait, il a été condamné à quel âge, cet homme? Il avait quel âge?
À 47 ans.
Donc ça
après,
veut dire que...
il faut savoir que dans ce cas précis, c'est un viol aggravé parce que c'est sur sa descendance ou donc là c'était jusqu'à 25 ans qu'il risquait, pas 15.
Ouais, donc oui, bah donc 6. Comment s'expliquent les 6 ans en fait? Si vous arrivez à lui expliquer.
Alors, pour moi, à mon sens, c'est déjà, c'est des faits qui sont antérieurs où il n'y a pas de preuve physique. Il n'y a que des expertises psychologiques et psychiatriques qui peuvent, un tant soit peu, justifier la condamnation, mais c'est tangible pour avoir une peine vraiment lourde.
Ce que vous voulez dire, c'est que la justice donc a remis votre parole et celle de votre sœur en doute, parce que c'est ça que vous me dites. À partir du moment où il n'y a pas de preuve tangible. C'est-à-dire que voilà, on n'était pas là pour voir. Aucune autorité n'a été là puisque finalement les gendarmes ont cru meilleur d'aller voir la mère de votre agresseur plutôt que de prendre la plainte de votre sœur. Ensuite, les parents de vos amis et pas qu'une fois. Voilà, tout le monde a gardé bien ça tranquillement. Donc du coup, personne ne pouvait constater ces viols. Donc en fait, je ne vois pas en fait où cette justice. Trouve qu'il n'y a pas de preuves tangibles, en fait. Votre mère,
C'est là qu'est pour moi tout le problème. Parce que, en fait, la société est à l'image de la justice. Il y a une chose dans le droit français qui existe, c'est la présomption d'innocence.
Oui.
Mais du coup, c'est à la victime de prouver qu'elle l'est vraiment. Et là, on marche sur la tête. Mm-hmm. Ça n'a pas de sens.
Allez-y, finissez la phrase, votre phrase en quart.
Non, c'est que pendant toute l'instruction et pendant tout le procès, on a fouillé la moindre petite chose dans notre vie qui pouvait être servie contre nous pour remettre en cause notre témoignage. Et surtout, évidemment, la défense, mais aussi l'instruction en elle-même. Les procureurs, les psychiatres et les psychologues qui vous posent des questions super indiscrètes et qui vont pouvoir utiliser certaines choses que vous avez fait dans votre vie.
Vous allez m'expliquer ça. Vous allez m'expliquer ça un peu plus en détail, si vous le voulez bien, parce que vous doutez bien que ça doit aiguiser la curiosité de pas mal de nos auditeurs ce soir. Comment on peut en arriver à vous remettre en question, en tout cas remettre en question vos paroles à toutes les deux, mais en plus de ça, venir vous chercher. On fait une légère pause et puis on se retrouve tout de suite, Ankara.
Très bien.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Si vous nous rejoignez maintenant, il est 23h28, et puis c'est votre libre antenne sur Europe 1 qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. Nous échangeons avec Anka ce soir sur les viols à répétition dont elle a été victime de la part de son beau-père, ainsi que sa sœur, qui a 6 ans de plus qu'elle. On évoquait ce procès d'assises, Anka, et la défense. Bien évidemment, dont c'est le travail de faire prendre le moins possible à son client. Et donc, je suppose que là aussi, ça doit être dur pour les victimes d'entendre certaines paroles de certains avocats. Mais vous évoquez les psychiatres aussi, et donc des questions plus que embarrassantes ou douteuses. Racontez-moi pourquoi.
Alors. C'est moi aussi qui l'ai ressenti comme ça, forcément, dans la situation où j'étais. Mais on va beaucoup nous poser même quand vous faites votre déposition, on va beaucoup vous poser des questions sur votre comportement avec les hommes ou les garçons. Est-ce que vous droguez? Est-ce que vous buvez beaucoup d'alcool? Est-ce que vous faites souvent la fête? Est-ce que vous sortez? Est-ce que tout ce qui peut... en un sens, dans la société, justifier d'une certaine manière que que quelqu'un puisse être attiré par nous au point de commettre un viol va un peu être mis sur la table. Sauf que, enfin, en ce qui concerne la tenue vestimentaire, etc., à 12 ans, je ne crois pas que ce soit vraiment un problème si je mette une mini-jupe.
Pas vraiment. Enfin, et là, on parle encore, hein, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, on parle encore d'une, en tout cas, d'une appréciation allant dans le sens vraiment des hommes et de leur perception, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on a des viols, là, sur des mineurs, et on commence à aller chercher, comme vous venez de le dire, des comportements évoquants, hein, ou qui puissent à la rigueur, perturber cet homme et donc provoquer en lui une excitation. Et, non, mais on marche sur la tête complètement.
Mais ça se justifie dans plein de procès, parce que, du coup, je me suis beaucoup documentée là-dessus, et ce que je peux constater, c'est que très souvent, pour justifier leurs actes, ces hommes-là vont dire « Oui, mais elle m'a aguiché, elle s'est assise sur mes genoux », des choses comme ça, mais on parle de gamines ou même de petits garçons. Ça n'a pas de sens. Ça ne devrait même pas être une justification logique pour eux. Mais c'est parce que, en fait, bah, la société est conditionnée comme ça. C'est qu'on va toujours penser qu'il y a une raison qui affecte la victime à chercher à ce que ça se passe.
Oui, oui, c'est... Bon, c'est Vous l'avez ressenti comment, ça, cette justice, finalement, très patriarcale, en fait, encore? Est-ce que vous avez eu cette analyse-là, à un moment?
Bah, bon, franchement, le procès, je crois que ça a été pire à vivre que tout ce que j'ai vécu avant. Parce que vous avez l'espoir que ça va vous libérer. Et au final, c'est encore plus dur parce que vous faites face à des inconnus qui vont vous juger vous aussi, alors que vous n'êtes pas l'accusé. Et il y a des choses aussi qui peuvent être dites dans un tribunal. Et là, je pense notamment aux avocats de la défense qui peuvent nous écouter. Enfin, parfois, il y a des choses qui sont limites à dire. Moi, je prends un exemple de l'avocat de mon beau-père. Pour requalifier ça en agression sexuelle et non pas en viol, il a dit texto dans le tribunal, de toute façon, entre un viol et une agression, c'est plus qu'une question de centimètres. Enfin, on peut pas dire ça devant une victime, c'est pas possible. Quand bien même, je comprends qu'ils font leur travail, mais après, il y a aussi un minimum de
respect.
Enfin, oui, de conscience
morale.
Mais oui,
on parle de respect, de conscience morale, complètement. Si je compte bien, en fait, cet homme a donc été condamné à 6 ans, donc ferme, à l'âge de 47 ans, donc avec les remises de peine, ça veut dire que cet homme sortira à l'âge de 50 ans. Il est déjà dehors, d'accord.
Il a fait 4 ans et demi, et puis il est ressorti.
Super.
Il continue sa petite vie tranquillement, et puis nous, on a pris perpétuité. Hein.
Oui, oui. Et qu'entendez-vous par « il continue sa petite vie tranquillement » Parce que c'est un homme comme ça, qui a ce type de comportement, on est d'accord que c'est une bombe à retardement. Il va recommencer.
Alors, il a été... pendant toute la durée de sa peine effective, donc du moment où il a eu sa libération conditionnelle jusqu'au moment effectif de sa peine, il n'avait pas le droit de se rendre dans notre village, pas le droit de prendre contact avec nous, et pas le droit de... Enfin, il était surveillé, il devait planter tous les mois, il me semble... à la gendarmerie la plus proche, mais oui. Du moment où sa peine est terminée, il n'y a plus aucune restriction. Si nous ne faisons pas de demande d'injonction restrictive, par exemple, ou de choses comme ça. Donc la première chose qu'il a fait quand sa peine effective a été finie, c'est de m'envoyer un message.
De vous envoyer un message?
Oui.
Et de quel type?
Il m'a ajouté sur Facebook en me disant « Coucou, ça va ?» Je l'ai bloqué partout, je n'ai pas répondu. Et au final, il a tenté à plusieurs reprises, par le biais de ma famille, etc., d'essayer de prendre contact avec moi, ce que j'ai toujours refusé, jusqu'à récemment où il a encore une fois fait une menace de suicide à ma petite sœur en lui disant que si elle se débrouillait pas pour que je lui réponde, il allait se suicider. Par peine pour ma sœur et pour pas avoir lui faire subir ça, j'ai pris contact avec lui, mais cette fois. Je lui ai vraiment dit tout ce que je pensais. Je n'ai pas été forcément les plus calmes, mais ça m'a libérée et j'ai bon espoir que ça lui permette de comprendre qu'il ne faut plus prendre contact avec moi. Parce qu'en fait, il essaie toujours d'avoir une emprise. Et moi, j'ai plus du tout envie de ça. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir faire ma vie.
Bien sûr. Il n'avait aucune interdiction de rentrer en contact avec vous ?
À partir du moment où sa peine était finie, non. Les seules personnes qui ont eu la gentillesse de nous prévenir, c'est les gendarmes qui ont pris notre déposition. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit que, quoi qu'il en soit, de toute façon, eux, ils n'ont aucun pouvoir là-dessus. Mais j'ai le numéro de téléphone privé de l'inspecteur qui a fait tout le dossier.
Oui.
Et dès que j'ai un souci, je peux systématiquement l'appeler. Mais c'est la seule personne qui a pris en considération la justice, pas du tout.
C'est absolument incroyable hein, ce que vous racontez, parce que vous voyez, j'ai été confronté de par mon métier à pas mal d'histoires, mais vous voyez, j'en arrive encore à être surpris du chemin qu'il nous reste à faire en termes de protection des victimes, en termes de voilà de protection de parce que cet homme se permette aujourd'hui, qu'il se sente le droit déjà de faire ce type de choses. Et qu'en plus de ça, il n'y a rien au-dessus de sa tête qui lui dise là, c'est stop, c'est terminé, parce que à la première tentative de prise de contact, tu retournes au trou. Et ça, c'est ce qui devrait être mis en place, c'est le strict minimum. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, peut-être je m'emballe, mais...
Non, mais moi je suis entièrement d'accord, mais le problème c'est que la réinsertion prime en France et qu'ils estiment que pour pouvoir se réinsérer, il faut pouvoir être en contact avec sa famille, il faut pouvoir se remettre à travailler, ouais, enfin, il faut pouvoir mener une vie normale.
Oui, d'accord, la réinsertion, vous avez raison, mais on entend réinsertion pour des gens qui ont fait leur peine. Pour braquage de banque, pour une arnaque, pour vous voyez des délits qui n'entraînent pas une soumission comme il vous a imposé, un chantage affectif comme il vous a imposé. Enfin, il devrait y avoir des mises en place particulières dans ces cas-là. Or, votre réinsertion à vous, on n'en parle pas dans tout ça.
Ah bah ça c'est pour ça aussi que je m'exprime et que je me permets de témoigner à la radio, c'est que on entend beaucoup parler de la peine des accusés, de leur sortie, etc. Mais on n'a aucune considération pour les victimes et ce qu'elles doivent vivre après. Moi, du jour où je suis sortie du tribunal, je me suis retrouvée sur le trottoir. Je me suis dit ça y est, c'est fait, mais je fais quoi maintenant? C'est quand même un événement important dans une vie, un procès comme ça, et on devrait être encadré. Et aujourd'hui, je le suis parce que j'ai les moyens de me payer un psy, mais c'est même pas pris en charge. Alors que, malheureusement, nous, les victimes, on se retrouve souvent avec des pathologies qui sont directement liées à ça, et ça devrait être pris en charge, ça devrait être remboursé.
Mais finalement, Anka, j'ai envie de vous demander, à quel niveau vous avez été prise en charge par la justice, en fait ?
À aucun.
Voilà.
J'ai juste eu le droit à une expertise psychologique et une expertise psychiatrique, mais pour montrer que je ne mentais pas. Mais sinon, j'ai eu aucune prise en charge. Hein. Enfin, pas d'état d'âme. On a voulu m'imposer une confrontation que je n'ai pas eu envie de faire, parce que enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse demander des choses pareilles. Mais sinon, non, j'ai jamais eu aucune nouvelle. Pour vous dire, j'attends toujours qu'on me rembourse mes frais pour le procès.
Tout ça est hallucinant. Tout ça est hallucinant et qu'il ait eu le droit de prendre contact avec vous, c'est entre la peine infligée à cet homme, la réinsertion qui ne prend pas part, en tout cas qui ne prend pas les victimes en question, donc c'est hallucinant. Et oui, j'en suis totalement étonné. Et pourtant, j'en ai entendu pas mal. Mais on en revient finalement aujourd'hui au chemin qui reste à faire dans ce pays pour remettre les pendules à l'heure et surtout renforcer la position des femmes dans ce pays lorsqu'il est question d'agression, de tentative de domination. Et dans domination, j'entends la domination au travail, mais aussi la domination comme vous l'avez vécu comme ça, par un, un agresseur, un pédophile, hein, finalement, parce que on parle de pédophilie, là, quand on agresse une petite fille de 12 ans. Et j'y vois encore une fois le chemin qu'il reste à faire à ce pays pour enfin prendre les bonnes mesures qui protégeront les femmes de ces agresseurs potentiels. Et ça part d'un coup donné à une femme. Tant qu'aujourd'hui, un homme ne saura pas que s'il donne ne serait-ce qu'un coup à sa femme, il peut dormir en prison le soir même, eh bien on n'avancera pas. Je pense qu'il faut vraiment être clair dans notre manière d'annoncer les choses. Et j'entends encore même des personnes qui défendent la cause des femmes et des violences faites aux femmes, quand je dis une chose pareille, dire oui, non, mais non, ça n'est pas aussi facile que ça. Mais c'est facile. C'est facile de dire, voilà, tu n'as pas le droit de taper une femme. Un homme est plus fort qu'une femme de par la nature. Donc, c'est comme ça. Tu tapes une femme, tu peux avoir de gros problèmes et même dormir en prison le soir si voilà si un juge en a décidé ainsi. Aujourd'hui, en fait, en France, il faut qu'une femme ait des marques sur le corps ou sur la figure, qu'il y ait un nez cassé, une arcade sourcilière ouverte pour qu'il y ait une garde à vue. Une garde à vue. Voilà. Voilà où on en est dans ce pays.
Après, si je peux me permettre, et ça s'est vu notamment avec l'étude de Nous Tous récemment sur le consentement, je pense que c'est pas un problème qui est inhérent aux hommes, mais aussi aux femmes et à l'éducation qu'on va donner, nous, à notre enfance, sur ce qu'est le consentement, sur ce qu'est le respect de l'autre. Parce que nous-mêmes, des fois, en tant que femmes, on n'a pas conscience qu'on subit des abus, parce qu'on a l'impression que c'est normal, parce qu'il y a encore cette culture patriarcale, notamment les histoires de devoirs conjugales, etc., qui sont encore super ancrées, en fait. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la justice, mais aussi sur l'éducation en général, et notamment à l'école.
Je suis d'accord avec vous.
Il devrait aussi être une place où ben, nous, gamines, ou même les gamins, soient formés à comprendre ce qui est consentement, ce qui est de respecter
bien
une
évidemment,
femme.
Bien évidemment, mais faire. Ça fait partie du chemin à faire. Je ne résumais pas le chemin qu'il y a à faire hein, en cas à cette loi-là. Parce que, bien évidemment, il faudrait que dans les écoles, on fasse, comme j'ai vu certaines initiatives dernièrement à Angers, avec une association qui faisait venir des enfants et qui les... Qui leur parlait du genre, vous voyez, et des petites filles, des garçons, et du respect entre petites filles et garçons, et pourquoi une fille a le droit de jouer au foot, et puis un garçon a le droit de jouer aussi, je sais pas moi, des jeux de filles à la Marelle s'il a envie, mais il y a des initiatives aujourd'hui en France qui montrent combien on a saisi que ça partait de là. N'empêche que aujourd'hui on en est arrivé quand même à devoir, c'est mon opinion, hein, et ça n'engage que moi, avoir un peu de un côté radical pour tout ce qui est violence faite aux femmes et notamment des coups, parce que on a vu encore l'année dernière et encore depuis le début de l'année qu'à la fin de la garde à vue l'agresseur revenait et donc tuait. Donc et ça n'éveille toujours pas une réflexion radicale. Je suis très ouvert d'esprit et lorsqu'on est ouvert d'esprit on peut aussi penser que la solution se trouve dans la radicalité dans certains secteurs. Mais c'est mon avis. Et après, vous avez raison de faire référence à la violence de certaines femmes aussi. Mais jusqu'à maintenant, en fait, c'est proportionnellement tellement voilà moins important. Donc, bien évidemment, ça ne permet pas aux femmes non plus de taper un homme. Et ce qui existe, je crois, à hauteur de 12% dans les violences conjugales. Mais reste que je ne sais pas à combien on en est de féminicides là. Mais on n'était pas très très bien parti à fin février. On était déjà à 35, je crois, ou 37 féminicides.
Bon,
il y a une question qui se pose dans ce pays et qui a été posée aux politiques. Et voilà, pour l'instant, ceux qui sont là en ce moment ne font pas mieux que ceux qui étaient là avant. C'est-à-dire qu'on prend pas de mesures spectaculaires et radicales. Mais encore une fois, ça n'est que mon avis. Merci beaucoup, Anka, pour votre témoignage ce soir sur Europe 1. Mille merci. Et puis, rappelez-moi où on peut trouver sur YouTube. Donc, redonnez-moi votre nom et
Alors, la vidéo s'appelle « J'ai survécu à l'inceste ». Le compte, c'est Anka, A-N-K-A, drop, D-R-O-P, out, O-U-T.
Ok, et si vous ne trouvez pas cette vidéo, vous pourrez vous rendre sur le groupe de parole de la Libre Antenne et vous trouverez toutes les références pour pouvoir voir la vidéo de Anka. Merci mille fois, et puis je vous souhaite bon courage, parce qu'il va vous en falloir encore.
Ben, je vous remercie, et merci de m'avoir entendu.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir.